Et ensemble, on va pouvoir se pencher sur la parole de Dieu. On va revenir à ce texte sur lequel on s'était penché il y a quelques semaines, qui se trouve dans la lettre de Jacques. Et nous avions parlé de l'importance de la sagesse pour pouvoir tisser les uns avec les autres de bonnes relations. L'homme, l'être humain, est un être social et il s'accomplit dans les relations qu'il tisse avec les autres. Et malgré cette évidence, malgré ce fait, on peut s'apercevoir que les relations ne sont pas toujours cause d'épanouissement. Au contraire, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des mots qui ne sont pas appropriés, il peut y avoir des tons, un ton qui est employé qui va nous blesser. Et ce qui fait que, alors qu'on est appelé à s'épanouir, alors qu'on est appelé à s'accomplir dans les relations que nous avons les uns avec les autres, c'est le contraire qui peut se passer. Et je pense qu'il y a de nombreuses erreurs que nous commettons dans le cadre des relations que nous avons avec notre entourage, que ce soit dans la famille, que ce soit avec nos amis, que ce soit au niveau professionnel, partout où nous avons des relations avec les autres, nous commettons des erreurs. Et ce que je voudrais, ce que j'espère, c'est qu'au travers de la méditation qu'on va avoir de ce texte biblique, on l'avait commencé il y a quelques semaines en arrière, nous puissions améliorer nos relations, nous puissions prendre en compte ce qui est nécessaire pour que nous puissions avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Dans ce texte, on va le relire ensemble, on va commencer par ça. Je vous invite à lire ce texte qui se trouve dans la lettre de Jacques au chapitre 3. On va lire du verset 13 au verset 18. Et voilà ce que Jacques écrit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, sans indécision et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ce que nous avions vu la dernière fois, on s'était plus particulièrement penché sur ce verset 17 parce que Jacques fait une comparaison. Il fait une comparaison entre une sagesse terrestre, une sagesse humaine, une sagesse qui est déconnectée de ce que dit Dieu, de la volonté de Dieu. Et il nous dit que cette sagesse-là, elle ne produit pas de bons fruits. Elle produit l'esprit de dispute, le désordre, elle produit de mauvaises actions et elle porte atteinte à l'intégrité de nos relations. Elle les détériore et même elle les détruit. Alors Jacques nous invite à prendre en considération ce qu'il appelle la sagesse d'en haut, la sagesse divine, la sagesse que Dieu veut nous inspirer. Et il invite les personnes auxquelles il s'adresse, à qui il a adressé cette lettre, à prendre en considération la sagesse divine pour bâtir de bonnes relations. Et on avait commencé à voir la dernière fois qu'il est question dans cette sagesse divine de la pureté, de la transparence. Quand nous tissons une relation avec quelqu'un, il est important que nous puissions savoir où nous allons avec cette personne. Que ce soit des relations professionnelles, des relations amicales, on ne peut pas exiger ou demander ce que la personne en face ne peut pas nous donner. Donc il faut de la pureté, c'est-à-dire de la transparence, que les choses soient claires, que la relation que nous bâtissons ensemble puisse être claire. Et on avait particulièrement souligné le fait que cette transparence, elle passe par la confiance. Il n'y a pas de relation quand il n'y a pas de confiance. Et bâtir une bonne relation, c'est bâtir dans la confiance. Et la confiance, ça se construit continuellement. C'est pas quelque chose qui se décrète, c'est pas quelque chose là qu'on considère comme acquis une bonne fois pour toutes. Hein, ça fonctionne un peu comme un compte en banque, c'est l'image qu'on avait prise, ça se crédite, ça se débite. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que le niveau de confiance reste à un bon niveau pour que la relation soit de qualité avec les personnes qui nous entourent. C'était le premier point qu'on avait vu. Le deuxième point qu'on avait vu, qui était lié à cette idée de la pureté, de la transparence et de la confiance, c'est que les relations sont bonnes quand elles sont sans indécision. C'est-à-dire quand on n'est pas changeant. Quelqu'un qui est indécis, c'est quelqu'un qui va commencer, qui ne va pas continuer. C'est quelqu'un qui va dire, mais qui ne va pas faire. Et c'est difficile de bâtir de bonnes relations sur cette base-là. Et c'est la raison pour laquelle, là, Jacques nous invite à être sans indécision, à ne pas être changeant, à rester le même. Et puis le dernier point qu'on avait vu, qui est lié aussi à ces deux premiers points, c'est que la sagesse divine nous invite à avoir des relations sans hypocrisie. Être dans la capacité d'être le même avec la personne quand je parle de la personne. L'hypocrisie fait référence au jeu des acteurs dans l'Antiquité. Le mot qui est employé là évoque le jeu des acteurs, le fait de porter un masque avec une personne et d'en porter un autre quand on n'est plus avec la personne. D'avoir un langage qu'on tient dans la présence d'une personne et ne plus avoir le même langage quand on n'est plus dans sa présence. Il est évident que c'est difficile d'avoir de bonnes relations quand il y a de l'hypocrisie dans la relation. Quand on apprend que quelqu'un a dit quelque chose sur nous et que ça porte atteinte à notre réputation, qu'on a été critiqué ou des choses comme ça, c'est très blessant et c'est très difficile de repartir sur de bonnes bases pour avoir cette relation. Alors on va continuer notre exploration du verset 17. On va surtout se concentrer sur ce qui nous est dit à propos de la sagesse d'en haut. Et l'élément suivant dont il est question dans le texte, c'est la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. La sagesse divine inspire la paix. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul fait cette exhortation qu'il adresse aux chrétiens et aux chrétiennes à qui il avait envoyé cette lettre et à nous, 2000 ans plus tard. C'est au chapitre 12 et au verset 18. Il dit « S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » C'est une invitation à rechercher la paix dans toutes nos relations. Ça tombe bien, c'est de ça dont on parle ce matin. Et Paul, il invite les chrétiens et les chrétiennes à se donner comme objectif de vivre des relations de paix, des relations paisibles, mais en même temps, il fait preuve de réalisme parce que il est conscient que ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi de la manière dont vit les choses, les personnes avec lesquelles on est en relation. Mais il demande que la paix soit un objectif constant pour les chrétiens dans les relations. Et là, Paul fait écho à ce que Jésus lui-même a enseigné et a exprimé parce que son désir à Jésus, c'était que ses disciples, ceux qui recevaient sa parole, diffusent la paix autour d'eux. Souvenez-vous, dans le sermon qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 5, ce sermon sur la montagne commence par une proclamation, la proclamation du bonheur. Il dit « heureux, heureux, heureux ». Et au verset 9, il dit « heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés, ou ils seront appelés fils de Dieu ». Heureux ceux qui procurent la paix. Jésus n'a pas dit « heureux ceux qui trouvent la paix ». Déjà, trouver la paix, c'est bien. Et on peut considérer que trouver la paix, ça peut nous rendre heureux. C'est mieux de vivre les choses en paix que les choses avec tristesse, avec tourment. Mais il n'a pas dit « heureux ceux qui trouvent la paix ». Il n'a pas dit « heureux ceux qui gardent la paix ». Trouver la paix, c'est bien. Garder la paix, c'est encore mieux. Mais il a dit « vous êtes heureux, si vous êtes mes disciples, vous êtes heureux si vous êtes des agents de paix. Si vous diffusez cette paix autour de vous. Si vous êtes source de paix pour les autres. » Jésus a dit « il y a du bonheur à construire la paix ». Il n'y a pas besoin d'avoir fait 28 ans de théologie pour comprendre ça. On est heureux quand on a des relations paisibles, quand on crée cette paix dans notre entourage, dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais le problème auquel nous devons faire face, malheureusement, c'est que la paix, ce n'est pas la caractéristique de l'être humain. L'être humain est assez peu disposé à la paix. Parce que naturellement, l'homme est plutôt disposé à agir dans son intérêt. Et s'il doit défendre son intérêt, ça va mener au conflit, ou ça augmente les chances de mener au conflit. Il y a une statistique qui a été établie il y a 25 ans à peu près par un périodique américain, qui est vraiment très intéressante et que je trouve très révélatrice de comment nous fonctionnons, de qu'est-ce qu'est la caractéristique de l'être humain sur ce plan-là. Ce périodique américain a calculé que sur une période de 3530 ans, c'est-à-dire que cette statistique s'est fondée sur le moment, sur la période de l'histoire de l'humanité qui est la mieux documentée, où on peut vraiment avoir des documents pour se rendre compte de ces choses-là. Sur 3530 ans, il y a eu seulement 286 ans de paix. 3530 ans, 286 ans de paix. Ça représente 8% de paix sur toute cette période de plus de 3000 ans. 8%. Alors après, si vous me dites que l'être humain est naturellement disposé à la paix, je ne peux pas vous croire. Il va falloir argumenter dans l'autre sens, trouver de bons arguments. La même statistique a établi qu'il y a eu plus de 8000 traités de paix qui ont été conclus entre les hommes, entre les nations, entre les royaumes. 8000 pour 286 ans de paix. Ça veut dire que la plupart, l'immense majorité de ces traités n'ont jamais été respectés. Ça aussi, ça en dit long quand même sur la capacité de l'homme à faire la paix. Les conflits servent à défendre quoi ? À défendre des intérêts nationaux, des intérêts territoriaux, des intérêts commerciaux, des intérêts idéologiques, qu'ils soient d'ordre politique ou religieux. C'est ce qui fait aussi l'actualité. Eh bien, ça fonctionne de la même manière dans une relation personnelle. Quand chaque individu est prioritairement fixé sur son intérêt, ça conduit au conflit. Ça conduit à l'affrontement. Ça s'exprime dans des proverbes, vous avez certainement un proverbe que vous connaissez bien, qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Ça, c'est une phrase qu'on trouve sous la plume d'un auteur de langue latine, un romain qui vit au IVe siècle, qui a écrit un traité d'art militaire. Et dans ce traité d'art militaire, il dit ça, « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Il s'appelle Végès. On trouve l'équivalent de ce proverbe en Orient, parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit « La paix est à l'ombre des sabres. » La paix est à l'ombre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. La paix est à l'ombre des sabres. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Qu'on soit en Occident ou qu'on soit en Orient, on voit que c'est la même chose qui s'exprime. C'est comme si la paix était simplement l'intervalle entre deux conflits. Comme si la paix, c'était un espace entre deux guerres, entre deux affrontements. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que ce sont forcément les plus forts qui ont raison. Parce que la paix, elle est conclue aux conditions du plus fort. Mais ce n'est pas la crainte du conflit qui doit nous mener à la paix. C'est le désir lui-même de la paix. C'est la paix elle-même que nous devons rechercher. Si on est toujours dans la logique d'éviter des conflits, bah forcément, le conflit il reste présent, il reste une possibilité, il reste une éventualité. Par contre, si mon objectif, comme l'apôtre Paul et comme Jésus nous ont appelé à le concevoir, c'est la paix, il y a beaucoup plus de chances que j'atteigne cet objectif dans mes relations. Je veux des relations de paix. Je vais viser la paix. Je veux construire la paix dans mes relations. Ce qui va à l'encontre de la paix dans les relations, c'est de vouloir absolument avoir raison. Ça entraîne des conflits. Ça entraîne des frustrations. La volonté d'imposer son point de vue, d'argumenter jusqu'à ce que l'autre capitule, ça n'engendre pas la paix. Pousser les gens jusque dans leur dernier retranchement. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit le désir de garder le contrôle dans la relation, de pouvoir diriger les choses, de pouvoir conduire les choses. Ça exprime le désir d'avoir le dernier mot. Imposer son point de vue peut donner l'illusion de la paix. Dire, ça y est, j'ai argumenté, je suis allé jusqu'au bout de la discussion et la personne en face, elle a capitulé. Donc, ok, ça y est, c'est bon. La paix est conclue. Et ça peut donner une illusion. C'est une illusion de paix. Parce que, au contraire, soit la personne en face, elle va pas se laisser faire. Et à ce moment-là, elle aussi, elle va vouloir avoir la paix, mais à ses conditions à elle. Donc, on va être dans l'affrontement. Ça va tendre les relations. Ou alors, la personne en face, elle va capituler. Parce qu'elle va être à bout d'arguments. Puis, elle va dire, bon, ok, là, je sais plus quoi dire. Mais ça va créer de la frustration, en réalité. On pense qu'on a la paix, on pense qu'on a eu raison. Et en fait, la personne en face, simplement, elle garde les choses à l'intérieur d'elle-même. Et là, il y a un vrai potentiel de conflit. Parce que ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Le problème n'est pas réglé. Jacques, au verset 14, condamne le zèle amer. On pourrait traduire l'esprit de parti. L'esprit de parti, c'est avoir une idée ou une opinion à laquelle on tient coûte que coûte. C'est ça l'esprit de parti. Voilà, ça, j'ai quelque chose là dans mon esprit et j'en démordrai pas. Et ça engendre inévitablement, on le lit aussi au verset 14, un esprit de dispute. La dispute, c'est la rivalité, c'est l'affrontement. C'est je confronte absolument pour gagner mon opinion, mon avis, ma parole à celle de l'autre. C'est le contraire de la paix. Assurer la paix dans les relations, ça demande de prendre en considération deux choses. Tout d'abord, ça demande de prendre en considération notre état intérieur. Il arrive que je n'engendre pas la paix dans mes relations parce que je n'ai pas la paix en moi. J'ai pas la paix dans mon cœur. Par exemple, dans des conversations, dans des discussions qu'on peut avoir, que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre du service, peut-être aussi dans l'église, ou dans le cadre de la vie familiale, il y a des gens qui se sentent automatiquement remis en cause quand on parle avec eux. On parle de quelque chose qui a pu avoir trait dans la vie quotidienne ou dans le travail, et tout de suite, les gens se sentent remis en cause. Ils se sentent critiqués dans leur rôle de parent, dans leur rôle professionnel, ou dans les activités dans l'église, comme je viens de le dire. Ils n'ont pas de recul par rapport à une remarque qui peut être faite, qui peut être constructive, qui peut être là pour l'aider, pour l'accompagner et lui permettre de s'améliorer. Mais il n'y a pas de recul par rapport à cette remarque, par rapport à une mise au point qui a besoin d'être faite dans les relations. Il peut arriver régulièrement qu'on ait besoin de parler pour remettre au point certains éléments pour que la relation puisse continuer dans de bonnes conditions. Mais tout de suite, c'est interprété et c'est reçu comme une accusation, comme une remise en cause. Et ça révèle des choses, ça révèle justement qu'on n'a pas la paix, ça révèle un manque de confiance en soi, ça révèle une mauvaise image de soi, ça révèle un désir de reconnaissance, un désir d'approbation. On en a parlé pas plus tard que la semaine dernière, quand il a été question de notre activité professionnelle. Ça révèle ce genre de choses. Et les réactions, la réaction que ça peut créer, ça tend la relation. Si je trouve la paix parce que je considère en priorité l'image que Dieu a de moi, si je trouve la paix parce que je crois en son amour, je crois en son approbation, je crois que Dieu m'accepte tel que je suis, si je trouve la paix parce que j'ai demandé à Dieu que par son esprit, il répande en moi sa paix, alors ce que Dieu va me donner va se traduire dans mes relations, ça va se diffuser dans mes relations. Vous voyez comment la paix intérieure peut contribuer à construire des relations paisibles avec ceux qui nous entourent. Ça, c'est le premier point à prendre en considération. Là, avoir la paix dans notre cœur, veiller à notre état intérieur. Assurer la paix dans les relations demande de prendre en considération également les circonstances extérieures. Si je suis de bonne humeur, il y a de fortes chances que je puisse être capable de diffuser la paix autour de moi. Il s'est passé une chose agréable dans ma journée, dans ma matinée, j'ai passé une bonne nuit, j'ai reçu une bonne nouvelle, c'est le jour où j'ai reçu ma prime, ça me met de bonne humeur. Alors quand j'arrive au travail, là je vais sans doute diffuser la paix autour de moi. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des moments où on traverse des choses qui sont un peu plus difficiles, il y a des événements qui viennent nous contrarier, qui viennent compliquer le déroulement de la journée, et le contexte dans lequel nous vivons n'aide pas toujours à garder la paix. Un climat désagréable au travail, des relations tendues, une mésentente familiale, des conflits de voisinage, une mauvaise nouvelle qu'on vient de recevoir, ça nous touche. Et il y a ainsi des événements et des situations qui influent sur nos relations. Et c'est là qu'il faut se garder cet objectif de la paix. Vous voyez, pour combien c'est important. J'ai accompli mon service militaire dans des conditions un peu particulières. Je suis pas allé crapahuter dans la boue et tout avec un FAMAS. En fait, j'ai fait ça dans un cadre civil. On appelait ça le service ville à l'époque. Et c'est le ministère de la Défense qui m'avait prêté au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, je faisais du soutien scolaire et j'aidais à la logistique, à l'organisation du collège dans lequel j'étais dépêché. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec les surveillants. Et pour ceux qui ont été surveillants, ou même d'ailleurs pour ceux qui sont profs parmi nous, il y en a quelques-uns, vous savez que les jours les plus difficiles à gérer dans un collège, c'est les jours où il pleut. Parce que quand il pleut, tous les enfants se mettent sous le préau ou alors ils se regroupent dans le hall. Et ça crée une promiscuité qui dégénère très, très souvent et très facilement en conflit, justement. Alors bon, c'est des paroles qui fusent, c'est des insultes. Quelquefois, c'est autre chose, ça castagne. Il y a de l'électricité dans l'air à chaque fois qu'il pleut. On ne donne jamais autant de punitions que les jours où il pleut. C'est comme ça. Et il se trouve que parmi les surveillants, il y en avait une, mais qui était incapable d'avoir du recul quand il pleuvait. Mais c'était vraiment pénible. Je vous en parle, ça vit encore en moi, vous voyez. Elle arrivait, elle dit, mais quelle journée pourrie, oh là là, il fait noir, il fait sombre, ça va être pénible. Elle arrivait à rentrer dans le bureau des surveillants, boum, déjà l'atmosphère, il y avait une lourdeur, il y avait un couvercle qui se posait sur l'espace là dans lequel on travaillait. Et puis la journée se passait mal. Et c'était beaucoup plus difficile parce que elle diffusait ça à chaque fois. Et quand tu sais que ça va être difficile, quand tu sais que va y avoir à gérer ce genre de complications, je pense que avoir l'objectif de la paix, c'est ça, c'est de se dire, bon, ça va être compliqué aujourd'hui, mais je vais faire face. Là, je vais faire appel à ma volonté, parce que si je me laisse aller, si je me laisse influencer par les circonstances extérieures, mais c'est sûr qu'il va pas y avoir la paix. Au contraire, on va diffuser quelque chose de négatif. Vous voyez, c'est autant important de prendre en considération notre état intérieur que les circonstances extérieures pour garder cet objectif de la paix dans nos relations. J'ai besoin d'être dépendant de Dieu pour ne pas dépendre des circonstances. On n'aime pas parler de dépendance, on aime plutôt parler d'indépendance. Aujourd'hui, ça c'est la vraie qualité. Mais être dépendant de Dieu, regarder à Dieu, dépendre de Dieu, laisser Dieu agir dans mon cœur, fait que je vais dépendre de lui, donc de la paix qui est en lui, de la paix qui est en sa sagesse, plutôt que de dépendre des circonstances extérieures. La paix, c'est une disposition d'esprit, c'est un choix à faire, c'est un objectif à se donner. J'aime beaucoup cette phrase de ce poète français, célèbre poète français, François de Malherbe, un Normand d'ailleurs, je dis au passage pour ceux que ça intéresse. Il est né à Caen, il a exercé son activité à Caen. François de Malherbe a dit « Je ne trouve la paix qu'à me faire la guerre. » Il avait compris que pour pouvoir avoir cette paix dont il avait besoin et qui était nécessaire pour tisser de bonnes relations avec les autres, il fallait d'abord qu'il lutte contre ce qui était en lui, contre ce qui l'assaillissait, contre ce qui pouvait le perturber dans sa vie intérieure. Il avait compris cela. Et c'est cette démarche, c'est dans cet esprit qu'on est appelé à faire les choses. Là, si je sens une pression qui vient de l'extérieur et qui va compromettre la paix dans mes relations, alors à ce moment-là, je veux faire face à ça. Et je veux lutter contre ça. Pour apporter la paix dans mes relations, je dois d'abord lutter contre moi-même, pas contre les autres. Laisser Dieu avoir raison m'évitera de toujours vouloir avoir raison. Si je sens là que je ne suis pas disposé à la paix, alors Seigneur, regarde-moi. Là, vois dans mon cœur, lis dans mon cœur, parce que je ne veux pas que ce soit ça qui s'exprime. Je veux que ce soit ta parole qui m'invite à la paix, qui ait raison. Je ne veux pas que ce soit mon sentiment et mes humeurs qui aient raison et qui vont vouloir me pousser à avoir raison. La paix. Le cinquième élément dont il est question dans cette lettre de Jacques, c'est la modération. Le mot qui est utilisé ici, c'est le sens. Ça a le sens de juste mesure, de juste proportion. Ça pourrait se traduire par indulgence, par clémence. Le mot qui est utilisé, c'est le contraire d'être intraitable, d'être dur. C'est un mot qui porte l'idée d'avoir un comportement ou des paroles qui soient les plus justement adaptées à la situation à laquelle je fais face. C'est faire preuve de souplesse. Je pense qu'en fait, modération, on pourrait le traduire par souplesse, être souple dans les relations que j'ai avec les gens de mon entourage. Comme nous sommes tous différents, nous ne comprenons pas tous les mêmes choses de la même manière. Pour établir et entretenir une bonne relation, il convient donc de comprendre et de s'adapter au caractère et au langage de l'autre. C'est chaud, hein, ce que je suis en train de dire là. Si j'exige de l'autre qu'il comprenne tout comme moi, qu'il voit tout comme moi, qu'il aime tout comme moi, il est probable que la relation ne va pas être de très bonne qualité. La relation, elle peut être bonne quand on accepte la diversité des goûts et des opinions. Alors, une autre expression que vous connaissez sans doute, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. À Cholet, j'entends plus les gens de Cholet que les gens d'Angers, là. Eh bien, si. En fait, on devrait pouvoir discuter des goûts et les couleurs. On devrait pouvoir discuter de nos opinions. On devrait pouvoir discuter des choix que nous faisons, dans quel but, pour mieux nous comprendre, pour mieux et ainsi améliorer nos relations. Plus nous nous comprenons et plus nous avons de bonnes relations les uns avec les autres. On a des intelligences différentes, des sensibilités différentes. Nous avons des expériences différentes. Il y a des gens qui sont plus rationnels et d'autres qui sont plus émotionnels. Alors quand un rationnel parle avec un émotionnel, déjà, c'est deux mondes différents qui sont en train de discuter, qui sont en train d'établir une relation. Ils ne ressentent pas les choses de la même manière. Ils ne perçoivent pas les choses de la même manière. Alors, ça nécessite évidemment là de pouvoir se mettre à l'écoute de l'autre. La modération nous conduit à admettre qu'on n'a pas tous la même compréhension des choses. On ne comprend pas tout de la même manière et au même moment. Ça, c'est mon rêve, en fait, quand je fais une prédication et puis que toutes les personnes qui sont dans l'église comprennent exactement ce que j'ai voulu dire au même moment. Mais bon, non, c'est pas de votre faute, hein, c'est comme ça. Moi, c'est pareil, hein. Non, on n'est pas des clones des uns des autres. Et souvent, dans la relation, on voudrait que les gens soient comme nous, aiment les choses comme nous, comprennent les choses comme nous. Et ça ne peut pas se faire automatiquement. Dans les relations, il y a une part émotionnelle. Toutes les relations impliquent une part émotionnelle. Il n'y a pas que ma raison, il n'y a pas que mon intelligence qui entre en jeu. Il y a aussi ce que je ressens. Et je ressens des choses quand quelqu'un me parle, par exemple. Je peux ressentir, là, ce que la personne me dit, ça peut me toucher. Ce qu'elle me dit, ça peut me réjouir. Mais au contraire aussi, ce qu'elle me dit, ça peut m'énerver. Ou alors, carrément, ça m'ennuie. Là, je crois que j'ai fait la palette de ce que les uns et les autres, vous pouvez ressentir depuis que j'ai pris la parole, là, il y a 15 minutes. À dire, ouais, voilà, ça m'intéresse, parce que là, les relations, c'est quelque chose là où je veux vraiment en apprendre plus. Puis il y en a d'autres, ça y est, vous êtes déjà autre part. Vous dites, oh là là, j'espère qu'il est déjà à la moitié du message. Il y a une part émotionnelle. Il y a des sentiments qui sont impliqués dans la relation que nous sommes en train de tisser ensemble, en ce moment. Le tout, pour avoir de bonnes relations, c'est de maîtriser cette part émotionnelle pour qu'elle n'ait pas un impact négatif sur mes relations. Ah, c'est sûr que si ça vous ennuie ce que je suis en train de dire et puis que je vous vois en train de bâiller là, dans la relation, il va falloir que je prenne sur moi. Non, mais je ne vais pas dénoncer. Hein. Je ne vais pas dénoncer. J'ai vu personne bâiller. Ou à Cholet, peut-être qu'il baille déjà. Ouais, mais je ne peux rien dire. Ça me touche moins, du moins. Il faut maîtriser cette part émotionnelle. Il faut faire en sorte que, malgré mes émotions, je puisse mettre de la mesure dans mes paroles. Il faut que je puisse les exprimer dans de justes proportions. C'est ça la modération, la souplesse. Vous avez remarqué ce phénomène un peu curieux, qui est sans doute d'ordre biologique, mais dans une même pièce, à température ambiante égale partout, vous avez une personne qui peut avoir chaud et une personne qui peut avoir froid. Vous avez fait ce constat avec moi ? Vous avez vu ça, hein ? C'est très curieux. Alors, ce qu'il y a de pire, c'est que souvent, c'est l'homme qui a chaud et c'est la femme qui a froid. Alors déjà que c'est compliqué de se comprendre entre hommes et femmes, mais en plus, il y a ça. Je crois que c'est vraiment la preuve que le péché est entré dans le monde, ça. Parce que ça complique les choses. Là, quand l'homme, il a chaud, il ouvre la fenêtre, mais la femme dit « Non, ah, t'es fou, il fait froid. » Ça complique vraiment les relations, hein. Alors imaginez si moi je dis « Oh là, j'ai chaud » et puis Sandrine, par exemple, mon épouse, elle dit « Non, mais non, c'est pas vrai, il fait pas chaud, il fait froid, moi j'ai froid. » Oui, puis moi je lui réponds, je dis « Non, il fait pas froid, sincèrement, je t'assure, ce qui est vrai, c'est que j'ai chaud, il fait chaud. » Et boum, hop là, on est dans le conflit. Qui a raison ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? C'est une question d'émotion, c'est une question de ressenti, de sentiment. Les sentiments, ils sont pas vrais ou ils sont pas faux, ils sont juste là. Alors pour que la relation soit bonne, je suis appelé à faire preuve de modération. Là, je suis appelé à modérer mes propos et faire en sorte là de construire cette relation en prenant garde que ce que je ressens, l'émotion que je puisse avoir ne puisse pas avoir cet impact négatif. Le sixième point dont il est question dans la lettre de Jacques, cette description de la sagesse d'en haut, c'est la conciliation. Le mot qui est utilisé là a le sens de se laisser convaincre, se laisser persuader. Alors bon, il ne s'agit pas de toujours rejoindre le point de vue de l'autre, ce n'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire se disposer à accorder du crédit à l'opinion ou aux paroles de l'autre. Dans une discussion, on n'est pas obligé de capituler, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas le sens du mot, c'est simplement prendre en considération et se dire que ce que me dit la personne dans son argumentation, eh bien, il peut y avoir des éléments qui sont intéressants, qui sont vrais. La personne avec laquelle j'échange, elle peut avoir des arguments valables. Peut-être même qu'elle peut avoir raison aussi. Donc, on est conciliant quand on se met à l'écoute des gens. Ça, c'est une démarche qui permet beaucoup plus facilement de se comprendre et de se mettre d'accord. Écouter, c'est un facteur absolument essentiel pour pouvoir tisser et bâtir de bonnes relations. Écouter les autres. Parce que quand j'écoute l'autre, je me dispose à comprendre l'autre. Je me dispose à comprendre ce qu'ils veulent dire, je me dispose à comprendre ce qu'ils vivent, je me dispose à comprendre la manière dont ils vivent, je me dispose à comprendre aussi ce qu'ils ressentent. Écoutez, ça ne passe que par l'écoute. On dit souvent que l'on a deux oreilles et une bouche parce qu'il est plus important d'écouter que de parler. Au moins deux fois plus important d'écouter que de parler. C'est bien dit, hein ? Ce qui est sûr, c'est que bien écouter permet de mieux parler. C'est ce que dit Jacques lui-même. On peut lire cet extrait qui se trouve au chapitre 1, au verset 19. Je ne crois pas que je l'ai mis. Mais en fait, il dit qu'il faut être lent à parler et prendre les dispositions pour écouter. Jacques 1, 19. Et c'est exactement la disposition qu'on est appelé à avoir pour tisser de bonnes relations. Dans une relation, c'est préférable d'éviter de monopoliser la parole. C'est préférable d'éviter de bondir sur la parole pour absolument dire quelque chose. Parce que ça empêche les gens d'aller quelquefois jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire. Et ça, c'est pénible, hein, quand on est là dans une réflexion, on est en train d'expliquer quelque chose, mais on peut pas aller jusqu'au bout parce que la personne en face, elle a déjà pris la parole. On peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on veut expliquer. Ça peut gâter la relation. C'est très valorisant d'être écouté. Et ça met en confiance. Parce que quand on est écouté, ça veut dire que je suis pris en considération. Et si la personne me prend en considération, ça va augmenter la confiance. Je vais établir et je vais développer la confiance dans la relation. Quand on prend le temps d'écouter et de comprendre, c'est plus facile de se mettre à la place de l'autre et de trouver les mots justes. Parce qu'on a un malheureux réflexe aussi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit auparavant, mais on décode et on interprète les expériences des gens en fonction de ce que nous-mêmes nous avons vécu. Et on a l'impression qu'elle vit exactement la même chose que nous, mais non, les histoires sont différentes, il peut y avoir des nuances à apporter. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter, parce qu'on va pouvoir voir ce qui ressemble, là où peut-être je pourrais aider, je pourrais accompagner, mais on va voir aussi ce qui ne ressemble pas, ce qui est différent. Quand on a de bonnes relations, on dit quoi ? C'est la prédication des expressions. On dit qu'on s'entend bien. On s'entend bien, vous voyez, en français du moins. On s'entend bien, c'est-à-dire qu'on sait s'écouter. Si on s'entend bien, ça veut dire qu'on sait écouter. Et c'est une formulation qui a de bonnes raisons, mais en valeur l'importance de l'écoute dans la relation. Et puis le septième et dernier point, c'est la compassion. La sagesse divine nous invite à faire preuve de compassion. La compassion désigne souvent ce que l'on ressent quand quelqu'un souffre. C'est le sens que le mot qui est utilisé là a dans plein de passages de la Bible. Mais j'ai découvert ça justement en étudiant ce texte-là, c'est que le mot a aussi un autre sens et qui s'applique en particulier, et je crois que le contexte de la lettre qui parle des relations qu'on est appelé à avoir, ce sens-là s'applique bien à ce passage de la lettre de Jacques. Dans la Bible, c'est un mot qui désigne aussi l'affection et l'attention qui lie deux personnes. Affection et attention. Il semblerait, après avoir tourné tout ça dans ma tête, que le mot le plus juste, là, dans ce contexte-là, la traduction la plus juste serait gentillesse. La gentillesse. La gentillesse, c'est quoi ? C'est l'attention et l'intérêt que l'on porte aux autres. Et quand on est disposé à la gentillesse, ça se traduit par la politesse, la serviabilité, la bienveillance. Donc me voilà en train de parler maintenant de la gentillesse. Jamais j'aurais pensé que j'aurais prêché sur la gentillesse un jour. D'autant plus que la gentillesse n'est pas trop à la mode. Dans un monde très individualiste, très concurrentiel, la gentillesse, même on se moque de la gentillesse. C'est synonyme de quoi aujourd'hui ? Quand on parle de gentillesse, c'est naïf. Quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de naïf. C'est un faillot. Quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui est faible. Vous savez, quand on dit « Oh, j'ai encore été trop gentil. » Trop gentil, c'est ce qu'on dit. Voilà, on a abusé de ma faiblesse, de mes bonnes dispositions. Quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est bête même. Quand on dit « Ouais, il est gentil », c'est pas très positif. Hein. Gentil, ça veut dire « il est bête ». La gentillesse, pourtant, c'est une valeur positive. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les neuropsychologues, vous voyez, des experts dans la santé, ont redécouvert ces 10 dernières années, depuis le début du 21e siècle, c'est une des grandes redécouvertes du 21e siècle, ils ont redécouvert les vertus de la gentillesse. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur la gentillesse. Voyez-vous ça? La gentillesse. Ils ont dit, alors je suis allé voir les comptes rendus justement de ces études scientifiques. Il y a des, ça a été étudié à l'université, à Stanford par exemple, quand même, c'est une université prestigieuse des États-Unis, en Allemagne aussi, au Japon. Et ils ont découvert ou redécouvert que les actes de bienveillance favorisent la production de sérotonine. Alors la sérotonine, c'est une substance qui est sécrétée par le cerveau, un neurotransmetteur, on appelle ça, qui évite la mélancolie. Par exemple, les gens qui sont en dépression, on leur donne des médicaments qui favorisent la production de sérotonine. Ça favorise le bien-être, en quelque sorte. Eh bien, les actes de bienveillance, la gentillesse, favorisent la production de sérotonine. Ça favorise la production de sérotonine chez les personnes qui font preuve de gentillesse, mais aussi chez les personnes qui bénéficient de la gentillesse. Donc, c'est déjà énorme, ça. J'ai envie d'être gentil à l'égard de Daniel, par exemple. J'ai envie d'être gentil avec Daniel et je veux lui rendre service. Je vais vers lui puis je lui dis tu vas aller quelque part, tiens, prends mon bras. Voilà, je fais preuve de gentillesse. Cette étude, elle dit que mon taux de sérotonine augmente, je me sens bien, mais en plus, Daniel, alors je sais pas si l'exemple est bien choisi. Si, bon exemple. Son taux de sérotonine augmente, il se sent bien. Mais c'est pas tout. Les mêmes études ont montré que les gens autour qui assistent à des actes de gentillesse, eux, leur taux de sérotonine augmente également. C'est fou. C'est-à-dire que l'acte de gentillesse que j'ai accompli à l'écart de Daniel, Johan, là, il a vu ça, ça l'a touché, ça l'a ému, et il a envie d'être gentil. Il devient gentil, Johan. Non, il est très gentil déjà. Il a déjà un bon taux de sérotonine, Johan. Mais c'est fou, ça. On parlait de la paix tout à l'heure et de diffuser la paix, mais la gentillesse crée une atmosphère. Alors, il y a une journée internationale de la gentillesse qui a été mise en place il y a 7 ou 8 ans. C'est au mois de novembre, tous les ans. Alors, c'est toujours étonnant. Hein. Bon, c'est penser à un moment dans l'année quand même qu'il faudrait peut-être être gentil. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais si on cultive la gentillesse, je me dis s'il y a bien un endroit où on doit cultiver la gentillesse, dans notre famille, sur notre lieu de travail, bien sûr, mais c'est quand même ici, c'est quand même dans l'église. La parole, la sagesse divine nous invite à cultiver la gentillesse. C'est ce qui fait que il y a les consultants en entreprise, je voyais ça, encouragent les ressources humaines et les managers à la gentillesse. Il y a des stages de gentillesse maintenant dans les entreprises. Parce que la gentillesse favorise le vivre ensemble. Ça produit du bonheur à être ensemble, la gentillesse. Tout le monde est bénéficiaire de la gentillesse. Ceux qui en bénéficient, ceux qui le font et ceux qui sont autour. Et c'est sans doute pour ça que Mark Twain, là, le célèbre auteur américain, c'est lui qui a écrit Les Aventures de Tom Sawyer, Mark Twain a écrit « La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir ». C'est vraiment très bien dit. Il y a quelque chose qu'on perçoit dans la gentillesse. Et ça, c'est ce que Dieu veut dans nos relations. Être attentif aux autres, parce que c'est ça la caractéristique de la gentillesse, ça nous détourne de nous-mêmes. Ça nous ouvre aux autres. On prend en considération les autres. Et pour le coup, on agit moins, on a moins le réflexe d'agir dans notre intérêt. Ça nous dispose à être attentif. C'est bénéfique pour nos relations. Alors, toutes ces indications que je vous ai données, elles sont très pratiques. Et la lettre de Jacques, elle est connue justement pour donner des conseils très pratiques. Et là, vous m'avez entendu parler, et peut-être là que vous avez vu ce que vous arrivez à faire dans le cadre de vos relations. Et puis, est-ce que vous avez plus de mal à faire ou que vous n'arrivez pas à faire? On a parlé de la paix. Alors, oui, la paix dans mes relations, ça va. C'est ce que peut-être vous pouvez vous dire. Je n'éprouve pas le besoin de me justifier. Je n'éprouve pas le besoin d'absolument avoir raison. Je n'éprouve pas le besoin là, d'être reconnu au travers de mon argumentation. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça peut être aussi le contraire. Peut-être que vous dites, ah, en fait, j'aime avoir raison. J'aime avoir raison. Je veux aller jusqu'au bout de mon argumentation. Ou peut-être vous vous dites, je suis facilement dépendant des circonstances. Je m'aperçois que quand il y a quelque chose qui m'arrive, qui vient de l'extérieur, je suis désagréable. Je suis beaucoup plus difficile au contact. Je dépends beaucoup de mes humeurs, de ce que je peux ressentir. On a parlé de la modération. Et certains d'entre vous, vous vous dites, bah oui, moi, m'adapter aux autres... C'est pas un problème, j'ai cette capacité-là, j'ai cette possibilité, c'est lié à mon caractère. Et puis d'autres, vous vous dites, mais j'ai tellement de mal. tellement de mal à ne pas me laisser emporter par ce que je ressens, tellement de mal à ne pas me laisser emporter par mes émotions. L'écoute. Certains d'entre vous, je suis sûr, vous savez écouter, vous savez prendre du temps. Vous êtes là et vous pouvez laisser parler les gens, vous pouvez vraiment là comprendre, vous avez cette possibilité de les comprendre. Et puis d'autres, c'est la tendance inverse, vous avez plutôt tendance à parler, à monopoliser la parole, à toujours vouloir dire ce que vous pensez. Et la gentillesse. Il y a des gens qui sont gentils, il n'y a pas que Johan, je crois qu'il y a d'autres gens ici qui sont gentils. J'en connais plusieurs ici qui sont gentils, qui sont attentifs aux autres, qui sont ouverts aux autres. Mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, à l'écoute de ce qui a été dit, vous dites, mais non, j'éprouve pas ce besoin. J'éprouve pas le besoin de m'intéresser aux autres. En faisant ce bilan, l'erreur, ce serait de me concentrer sur ce qui me manque et de travailler par moi-même à développer. Il me manque la paix. J'ai besoin de cette paix. À partir de midi, je vais devenir quelqu'un qui va développer la paix, qui va diffuser la paix. Il me manque l'écoute. Là, à partir de maintenant, je prends la décision. Je vais écouter les gens. Je vais les laisser parler parce que je vais être dans cette démarche de comprendre, de ne pas me laisser avoir par mes humeurs, par mes émotions. Si on agit de cette manière-là, on a peu de chances d'obtenir des résultats. Même si on sait que c'est la sagesse divine, même si on sait que c'est la parole de Dieu, simplement se concentrer sur ce qui me manque ne va pas forcément m'apporter ce qui me manque. Parce qu'on a toujours ce réflexe de se reposer sur nos propres capacités. La meilleure façon de devenir plus sage et de se concentrer sur c'est de se concentrer sur la sagesse de Dieu elle-même. Vous avez ce texte dans 1 Corinthiens, ce sera le texte de conclusion, chapitre 1, versets 30 et 31, où Paul dit « Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse ». La sagesse de Dieu, c'est une personne, c'est Christ. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu. C'est le Christ qui fait que nous sommes acceptés et reconnus par Dieu. C'est le Christ qui nous permet de vivre pour Dieu. C'est lui qui nous donne cette capacité. C'est lui qui diffuse en nous la vie que je vais pouvoir diffuser autour de moi. C'est le Christ qui nous délivre du péché. Tout ce qui me manque et qui détériore mes relations, les fautes, les erreurs que je peux commettre, c'est le Christ qui m'en délivre. La sagesse divine, c'est Christ lui-même qui accomplit tout cela. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, continue Paul, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Je ne peux pas compter sur moi-même pour pouvoir devenir plus sage. La sagesse, elle va venir au travers de, pas où je vais me concentrer sur ce qui me manque, mais je vais me concentrer sur Christ lui-même, sur une personne qui est morte à la croix pour mes péchés, qui est ressuscitée, qui a remporté la victoire sur la mort et sur mon péché. Et qui vit maintenant dans mon cœur, dans ma vie, par son esprit. Et c'est au travers de cette prise de conscience renouvelée et de ce contact que j'ai avec Dieu et avec sa sagesse, avec Christ, que ces choses viennent en moi. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur de manière à ce que cette sagesse, tu la diffuses en moi. Pour faire en sorte que le contact, cette connexion que j'ai avec toi, que je veux développer, que je veux entretenir, puisse agir en moi et que ça me transforme. C'est pas moi qui vais changer, c'est toi qui vas me changer. Ce n'est pas moi qui vais me transformer, c'est toi qui vas me transformer. Christ est lui-même la sagesse divine. Si je crois qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité et que je peux avoir une relation personnelle avec lui par la foi, alors Christ vit en moi. Et ça signifie que la sagesse de Dieu, elle vit en moi, elle agit en moi. Je voudrais simplement vous inviter à vous recueillir alors que Xavier nous accompagne avec la musique, on reprendra ce chant justement pour réclamer la présence de Dieu, réclamer l'action de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Si on ne fait qu'écouter la parole, et c'est Jacques qui le dit lui-même, si on est un auditeur oublieux, on aura pu passer là ce temps ensemble et ça servira à rien. Mais l'objectif que nous avons, alors que nous sommes réunis, c'est de tisser de bonnes relations, de créer une atmosphère de paix, une atmosphère de gentillesse, de faire preuve de modération, de conciliation. C'est ce qui fait que nous aurons de bonnes relations dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans l'église. Alors l'enjeu, il est là. Ne soyons pas comme quelqu'un qui est face à un miroir, qui se regarde et qui oublie qui il est, comme le dit Jacques. Mais que cette parole, elle a un impact dans mon cœur, pour que cette sagesse puisse se diffuser en moi, grâce à la présence de l'Esprit, grâce à Christ que j'ai reçu dans ma vie et dans mon cœur. Je vais simplement vous demander, chacun personnellement, de vous mettre face à Dieu et par rapport à ce qu'on a vu, l'appel, la modération, l'écoute, la souplesse, toutes ces choses telles qu'on les a nommées, vous puissiez honnêtement dire, voilà quels sont mes points faibles, voilà ce que je n'ai pas, voilà ce que j'ai besoin de corriger, voilà ce qui doit changer. Simplement prendre quelques moments là pour faire cet inventaire, faire ce constat, sachant que ce n'est pas là pour nous accuser, ce n'est pas là pour nous dire qu'on est nul, mais que c'est pour nous dire, où Dieu dit, je veux que ça change. Et j'ai la possibilité, j'ai la capacité par mon esprit que ça change. Pour que les relations que tu as dans ton couple, pour que les relations que tu as avec tes amis, avec tes voisins, avec tes collègues, avec ton patron, avec tes employés, que tes relations s'améliorent, qu'elles soient encore plus bonnes. Et que les gens même puissent voir ça et constater l'œuvre que toi, Dieu, tu as accomplie en moi. L'enjeu, il est là. Et ça ne peut passer que par la foi que nous plaçons dans la présence de Dieu, la présence de Christ, l'œuvre de Christ accomplie à la croix et l'œuvre de l'Esprit qu'il accomplit en chacun de nous.